Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 20. Comme la plupart des marins, Charles Douvel avait le caractère bon enfant. Il avait embrassé et continué sa carrière en dépit des remontrances de l'unique parent qui lui restait, un oncle, qui s'était expatrié pour aller s'établir à la Martinique. Issu de noble race, il cédait cependant à des instincts de libéralisme qui lui attiraient la sympathie des matelots de son bord. On a vu comment il s'était tout de suite intéressé à Marianne. D'autres eussent traité la malheureuse femme comme on traite d'ordinaire les filles tombées. Pour Charles Douvel, au contraire, c'était chose tout à fait naturelle de s'intéresser à cette femme chez laquelle il avait rencontré des qualités qu'on aurait pu difficilement soupçonner chez une captive envoyée dans un pénitencier. Marianne avait accepté avec une joie bien vive la bonne amitié que lui avait offerte le jeune officier. Mais cette joie était souvent troublée par la pensée qu'un jour, le hasard pourrait faire découvrir la vérité et que l'ami qui aujourd'hui lui avait accordé son affection apprendrait son véritable nom, c'est-à-dire ce qu'elle était réellement et dans quelle fange elle avait vécu. Elle se voyait alors repoussée, méprisée par celui qui, pendant si longtemps, avait paru oublier à quel châtiment elle avait été condamnée. Cette pensée était pour son cœur une blessure mortelle. Chaque jour, lorsqu'elle voyait M. Douvel arriver chez le gouverneur, elle était subitement prise d'un serrement de cœur, comme si elle allait lire, sur le visage de l'officier, que celui-ci avait découvert la vérité. Le soir, quand il s'agissait de regagner sa chambre, les mêmes inquiétudes reparaissaient. Et ce n'était qu'en tremblant qu'elle se mettait, comme d'habitude, à sa croisée. Rien ne venait, cependant, troubler cette douce intimité entre ces deux êtres dans le cœur desquels, presque à leur insu, l'amour prenait de profondes racines. Marianne, d'autre part, s'accoutumait avec bonheur au procédé bienveillant de la marquise et de sa fille. Le gouverneur lui-même se félicitait d'avoir fait la vie calme à cette pauvre fille condamnée à subir une peine hors de proportion avec la prétendue faute qui avait motivé sa condamnation. Marianne jouissait donc alors d'un bonheur inespéré. Une autre joie d'un ordre différent lui était réservée. Un soir, au moment où elle se disposait à quitter l'habitation, Mademoiselle Yvonne la retint et lui mit dans la main un louis d'or. Et comme Marianne la regardait tout étonnée, « Mon père ne veut pas, lui dit la jeune fille, que vous soyez considérée plus longtemps comme une simple détenue. Il veut que le travail que vous faites chez nous soit un travail libre et non pas imposé. Il est donc juste que ce libre travail soit rémunéré comme il le serait en France. Et tous les 15 jours, vous recevrez de moi la même petite somme. » Marianne resta muette et stupéfaite. Des larmes brillèrent dans ses yeux, des larmes de joie mêlées d'un peu de fierté. Elle se sentait comme réhabilitée. C'était le premier argent qu'elle gagnait depuis qu'elle s'était enfuie de chez Madame Poitevin. Et celui-ci, elle ne le prostituerait pas. Elle lui réservait un emploi qui devait la relever à ses propres yeux. Un louis de 24 livres par quinzaine, c'était près de 600 livres par an. Somme assez importante à cette époque, et cette somme, elle la consacrerait à l'enfant de Madeleine Bachelin. Elle lui restituerait d'abord l'argent qu'elle lui avait volé, et elle continuerait ensuite à capitaliser les louis de chaque quinzaine pour subvenir aux besoins de l'enfant de l'atelier. Comme elle allait à présent travailler avec ardeur, c'est avec une joie d'avare qu'elle cacherait son argent, qu'elle le compterait, qu'elle verrait grossir la somme. Il lui faudrait s'occuper de la faire parvenir à Paris, à l'adresse de Madame Poitevin. Pour cela, comment s'y prendrait-elle? Oserait-elle en parler à la marquise? Quel motif donnerait-elle à ce désir d'économiser pour un enfant qui n'était pas le sien? Qu'importe, elle était bien certaine que Mademoiselle Yvonne se chargerait de faire parvenir ses envois à destination. Et d'avance, elle ruminait la lettre qu'elle écrirait à Madame Poitevin pour la prier de l'aider à réparer la faute dont elle s'était rendue coupable. Aussi, le soir de ce jour qui marquait lumineux dans son existence, jusque-là toute de tristesse, Marianne attendit-elle avec impatience l'arrivée de son voisin. Et lorsqu'elle se fut assurée qu'il était entré dans sa chambre, elle s'empressa d'ouvrir sa fenêtre avec bruit dans l'espoir d'attirer l'attention du lieutenant. M. Douvel, de son côté, était plus préoccupée que d'habitude, et lorsqu'à son tour il parut à la croisée, Marianne put voir qu'il avait l'air soucieux. Elle hésitait maintenant à entamer la conversation. « Vous me paraissiez tout à l'heure bien heureuse lorsque je vous ai aperçue dans le salon de Madame la Marquise, » fit l'officier. « Oh, bien heureuse en effet, » répondit Marianne, « autant que peut l'être une pauvre femme comme moi lorsqu'il lui arrive une joie inattendue. » Et elle raconta brièvement la bonne fortune qui lui venait à l'improviste. « Cela prouve l'intérêt que vous avez su inspirer ici à tout le monde, et je vous en félicite, » échangeant de ton. « J'ai aussi une nouvelle à vous apprendre, » dit-il d'une voix légèrement assourdie par l'émotion. Marianne pressa l'oreille. Au serrement de cœur qu'elle éprouva, elle eut le pressentiment que la nouvelle qu'on allait lui apprendre serait pour elle une cause de profond chagrin. Silencieuse, elle attendit. « D'abord, » reprit M. Douvel, « vous saurez que j'ai, non loin d'ici, aux Antilles, un parent, un oncle, que je n'ai pas vu depuis de nombreuses années. « Et il vous appelle auprès de lui, sans doute ?» interrompit Marianne, dont les lèvres pâlirent. « Non, il s'est fatigué, au contraire, de me conseiller inutilement de l'aller retrouver à la Martinique. »« Ah ?» fit la jeune fille avec un soupir de soulagement. « Aussi longtemps qu'il a pu le faire, avec l'espoir de réussir, mon oncle s'est opposé à ce que je choisisse la carrière des armes. Il voulait que je devinsse un apprenti planteur, afin qu'un jour je puisse gérer ses riches habitations. » « Je suis déjà vieux, » m'écrivait-il. « Dans quelques années, je ne pourrai plus m'occuper des intérêts considérables qui m'attachent à ce pays. Il faudra, si tu ne viens auprès de moi, que je m'adjoigne des étrangers. » C'est donc contre sa volonté que j'entrai dans la marine de l'État. Tant que je ne fus qu'aspirant ou enseigne, mon oncle conserva l'espoir que je me dégoûterais de la carrière et que je lui arriverais, un beau jour, décidé à travailler, comme il disait, sur le plancher des vaches. Il continua de m'écrire de temps en temps, m'exhortant dans chaque nouvelle missive à quitter la mer. « Et vous ne venez pas, dit-elle, m'annoncer votre départ pour la Martinique. J'avais supposé que votre oncle, ayant appris la catastrophe de votre navire, vous appelait auprès de lui. Je pars, en effet, mais ce n'est pas pour les Antilles. « Vous partez ? » dit Marianne d'une voix défaillante. Mon oncle a compris enfin l'inutilité de ses efforts. Il cesse de s'opposer à ma vocation et me laisse entièrement libre de continuer d'exercer la profession que j'ai choisie. Mais il veut, et avec raison, que sans perdre plus de temps, je me mette en mesure d'obtenir un nouveau commandement. Et vous êtes décidée à lui obéir ? Je suis décidée à suivre ce sage conseil. Marianne étouffa un soupir. Elle se cramponna à l'appui de la croisée pour ne pas laisser voir à quel point elle était agitée. Elle n'avait plus la force de parler. Monsieur Douvel continua. « Je vais retourner en France. Dans quelques jours, la corvette qu'on attend arrivera en rade. Elle restera à la Nouvelle-Orléans jusqu'à la célébration du mariage de la fille du gouverneur. Je sais même que l'arrivée de Monsieur Gaston de Saulny, dont on attend la prochaine arrivée, aurait hâté l'accomplissement de la cérémonie si le marquis n'avait voulu que l'état-major de la corvette assistât aux fêtes qui vont se donner ici pendant toute une semaine. « Vous partez. » fit Marianne, dont la voix tremblait. « Vous partez. » Le gouverneur aurait consenti à s'entremettre auprès du ministre pour que mon congé fût prolongé de quelques mois. « Ce congé est donc expiré ? » demanda vivement l'ouvrière. « Pas encore. Mais que ferais-je ici ? » ?»« C'est vrai, rien ne vous retient ici. Rien. » Charles Douvel, pour la première fois, s'aperçut qu'une certaine émotion se trahissait dans les paroles et dans la voix de la jeune femme. Il l'observa plus attentivement et remarqua le nuage de tristesse qui assombrissait son visage. Il lut enfin dans ses yeux l'aveu d'un profond chagrin qu'elle ne parvenait qu'à grand-peine à dissimuler. C'était comme une révélation. Certes, il savait bien que la jeune femme lui gardait une profonde reconnaissance, mais il ne s'était jamais douté que la prisonnière pût avoir conçu pour lui un réel amour. La physionomie de Marianne ne pouvait laisser de doute à cet égard. Charles Douvel éprouva un profond saisissement, et dans le frisson qui lui parcourut les veines, il y avait autant de joie que d'appréhension. Il n'en eût pas fallu davantage, en toute autre circonstance, pour enflammer l'esprit de l'officier, déjà tout plein de la pensée de la jeune femme. Mais Marianne avait tout à coup fait un effort sur elle-même, et refoulé l'impression douloureuse qu'elle avait ressentie à l'annonce du prochain départ de Charles, et elle était parvenue à parler sans que sa voix tremblât, à regarder l'officier sans que ses yeux exprimassent la souffrance de son âme. « Je comprends, fit-elle avec un pâle sourire, que vous vouliez retourner en France. Le soin de votre avenir vous y appelle. Vous prendrez le commandement d'un autre navire et, qui sait, un jour, dans bien longtemps, vous reviendrez peut-être à la Louisiane. » Et en parlant ainsi, elle refoulait au fond de son cœur les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle s'efforçait de garder en elle-même la flamme qui la consumait. Elle souffrait cruellement, sachant qu'il y avait un abîme infranchissable entre elle, la créature tombée si bas dans l'infamie, et l'homme d'honneur qu'elle adorait en secret. Pour Charles Douvel, la contrainte que s'imposait la malheureuse femme ne pouvait se dissimuler. La lumière s'était faite dans son esprit. Il connaissait le douloureux secret que l'exilé tentait vainement de lui cacher. La pensée ne lui vint pas un seul instant d'abuser du secret qu'il avait surpris. C'était un amour honnête et chaste que ressentait pour lui la malheureuse fille déchue. C'était une tendresse pure et loyale qu'il ressentait pour elle. Aussi prit-il le parti de réaliser promptement le projet qu'il avait conçu de retourner en France. Il lui tardait de s'éloigner avant que cet amour sans issue ne prît de plus profondes racines et ne devint tout à fait irrésistible. Marianne, de son côté, passa une terrible nuit d'insomnie et de larmes. Elle éprouva la réaction violente de l'énergie qu'elle avait dépensée à se contraindre. Pour amener un peu d'apaisement dans ses esprits troublés, dans son cœur si douloureusement atteint, la malheureuse dut se reporter aux journées fastes qu'elle avait traversées en compagnie de Jacques Frochard. Elle se dit alors que la femme qui avait aimé un semblable misérable devait être punie par le cœur, et que l'amour sans espoir qui la dévorait était un juste châtiment. Elle appela à son secours le souvenir d'Henriette Gérard, qui, elle, la vertueuse, l'innocente, elle qu'on pouvait aimer sans honte et épouser sans scrupule, avait su résister à l'amour que lui témoignait un gentilhomme et qui n'en avait pas moins subi un cruel et injuste châtiment. Elle se sentit alors plus forte pour résister au désespoir qui s'était emparé d'elle. Pendant cette interminable nuit, Marianne évoqua aussi d'autres événements, non moins sombres, de son passé. La pauvre Madeleine Bachelin lui apparut, comme dans une vision, telle qu'elle l'avait vue au moment où, mourante, elle recommandait aux ouvrières, ses compagnes d'atelier accourues à son chevet, de prendre soin de l'enfant qu'elle laissait sans soutien. Elle s'était agenouillée au chevet de la moribonde, le cœur gonflé de larmes qu'elle retenait à grand-peine. Et Madeleine Bachelin lui avait adressé un tendre regard pour la remercier des soins qu'elle promettait à l'orphelin. Tous ces tristes souvenirs se présentaient à sa mémoire, se succédant avec rapidité, ressuscitant tout ce passé mort jusqu'au terrible incident du vol de la tirelire, où l'on déposait sou à sou l'argent consacré à l'éducation de l'enfant de l'atelier. Lorsque le jour parut et vint mettre fin à ses souffrances qu'elle avait voulu comme une dernière expiation, Marianne se leva comme un spectre et alla appuyer sa tête brûlante contre la cloison qui séparait sa chambre de celle de l'officier. Et là, elle murmura toute la litanie de son amour, à jamais ensevelie dans son cœur. Elle dit les incessantes douleurs qu'allait amener pour elle une séparation éternelle, et dans sa folie, elle se meurtrissait le front contre ses planches, comme on fait sur le cercueil du bien-aimé qu'on ne doit plus revoir en ce monde. Puis, épuisée, elle se laissa glisser sur les genoux, tendant désespérément les bras. Et ses lèvres frissonnantes exhalèrent dans un souffle un suprême adieu à l'homme adoré. Une heure plus tard, elle avait trouvé la force de dissimuler les impressions de son âme, et lorsque Charles Douvel la revit, un changement complet s'était opéré en elle. Avec une force de volonté incroyable, elle commandait à l'expression de son visage et aux inflexions de sa voix. Le rôle fut si bien rempli que M. Douvel en était arrivé à se demander s'il n'avait pas été le jouet d'une illusion, lorsqu'il voyait luire dans les regards de l'ouvrière cette flamme qui l'avait tant frappée. Il doutait maintenant que Marianne eût laissé germer dans son cœur un autre sentiment qu'une bonne et franche affection d'ami. Bientôt même, il en arriva, après une soigneuse observation des faits et des gestes de la jeune femme, à se convaincre qu'il s'était trompé. Cette conviction ne fut pas, disons-le, sans faire une piqûre à son amour-propre. Il en revint néanmoins aux cordiales relations qui s'étaient établies entre lui et l'ouvrière. Et plus que jamais, Il s'efforça d'éloigner de son esprit la pensée qui lui venait constamment de Marianne et qui lui ravivait l'amour au cœur. Plus que jamais aussi, il se trouva résolu à quitter l'habitation du gouverneur, la Nouvelle-Orléans, la Louisiane même, sentant bien que c'était le seul moyen de mettre un terme à cet amour qui grandissait chaque jour. Il fallait maintenant un incident imprévu pour empêcher la réalisation de ce projet de départ. Cet incident allait se produire. L'arrivée du fiancé de Mademoiselle Yvonne fut un grand événement. Prévenu du retour de M. Gaston de Saulny, le gouverneur voulut aller au-devant de son futur gendre. Il pria le lieutenant Douvel de vouloir bien l'accompagner. L'officier n'eut garde de refuser, voyant là une occasion de faire part au marquis de son intention de retourner en France et de prendre passage sur la corvette attendue sur la mer des Antilles. Quant à Marianne, une fois son voisin parti, elle était remontée dans une profonde tristesse, n'ayant plus à dissimuler ses impressions. La mélancolie voilait si visiblement ses yeux qu'Yvonne fit observer à sa mère que la couturière devait cacher quelque souffrance. La marquise l'observa à son tour. Puis, certaine qu'elle ne se trompait pas, elle questionna affectueusement Marianne. « Je n'ai rien, madame la marquise, » répondit celle-ci. « Je ne souffre pas, je vous l'assure. » « Et cependant, vous semblez absorbée par de tristes pensées. Vous songez sans doute, pauvre enfant, à ceux que vous avez laissés en France. »«
Hélas, madame, je n'ai laissé personne là-bas. »
La phrase était échappée à Marianne. Pour la première fois, elle oubliait son personnage d'Henriette Gérard. Elle rougit et courba le front. Mais déjà la marquise avait voulu effacer la peine qu'elle supposait avoir faite à la prisonnière en lui rappelant sa prétendue liaison avec le chevalier de Vaudrey.
« Mon enfant, reprit-elle, si je m'informe, c'est que je ne veux pas que vous vous abandonniez à une mélancolie qui vous envahirait de plus en plus.
Oui, vous tentez vainement de le cacher, vous éprouvez une souffrance morale qui finirait par dégénérer en une sérieuse maladie. Je ne veux pas qu'il en soit ainsi, et je vais, dès son retour, parler au marquis de mon intention d'obtenir de lui que vous accompagniez ma fille dans son voyage de noces. »
« Quoi ? Madame la marquise songerait ?
Et pourquoi pas ? Yvonne n'a-t-elle pas pour vous une sympathie qu'elle n'a pas cachée du reste ?»
Marianne n'osait répondre, toute troublée de profiter de ces marques de sympathie qui ne s'adressaient qu'à Henriette Gérard.
« Oui, reprit la femme du gouverneur, j'arrangerai tout pour le mieux. Et vous me promettez de ne plus vous laisser aller à la tristesse, n'est-ce pas ? C'est entendu. »
« Madame, fit enfin la détenue profondément émue, je suis bien reconnaissante de l'intérêt que madame la marquise et mademoiselle Yvonne veulent bien me témoigner. Je ne saurais jamais assez les remercier de tous les bienfaits dont je suis l'objet. Moi, qui aurais dû subir ma peine comme toutes les autres condamnées. »
En prononçant ces mots, Marianne avait rougi. La marquise l'observait toujours.
« Voyons, mon enfant, dit-elle avec bonté, je n'ignore pas le motif de votre condamnation. Si je ne vous en ai jamais parlé, c'est que je voulais éviter de réveiller en vous de douloureux souvenirs. Mais aujourd'hui, que vous vous accusez d'avoir été coupable, laissez-moi vous dire combien nous trouvons trop sévère la peine qui vous a été infligée. D'ailleurs, vous ignorez sans doute que ceux qui ont exigé votre départ de France ont voulu que le châtiment fût atténué. Vous n'avez donc pas à nous remercier, le marquis et moi, si vous avez bénéficié de quelques faveurs. Un protecteur s'était chargé. »
« Un protecteur ? » balbutia Marianne.
« Celui-là même, qui croyait avoir à se plaindre et à punir. Oui, c'est ce même personnage, tout puissant, je dois vous le dire, qui a recommandé qu'on vous épargnât les durs travaux de ce pénitencier. »
« Comment, c'est un personnage tout-puissant qui…
Vous ignoriez donc la qualité de celui qui avait le droit de s'opposer à ce que les relations continuassent entre vous et… »
Puis s'interrompant, en voyant que la détenue pâlissait et perdait contenance.
« Je ne veux pas poursuivre plus loin cette conversation, qui, je le vois, est pénible pour vous. L'émotion que vous ressentez prouve assez que vos souvenirs sont toujours aussi vivaces et que vous souffrez plus encore de vos espérances évanouies que de la punition sévère qu'on vous a infligée. »
Marianne voulut protester. Elle dit d'une voix entrecoupée. « Madame la marquise juge mal les sentiments que j'éprouve. Non, je ne me souviens pas des choses passées pour les regretter. Aujourd'hui, comme autrefois, je reconnais
que je devais rester dans la médiocrité de ma condition, lorsque je fus l'objet de l'attention d'un gentilhomme.
Marianne, poursuivant le rôle qu'elle s'était imposé de remplir en se substituant à Henriette Gérard, répondit simplement.
Mon devoir était de repousser les offres qui m'étaient faites. Rien, pas même le sentiment que j'éprouvais, ne devait me faire dévier de la ligne de conduite que m'imposait ce devoir.
Oui, vous avez agi loyalement, honnêtement, mais vous n'en souffrez pas moins.
N'essayez plus de me convaincre. J'ai bien deviné la cause de votre tristesse que je veux combattre.
Et vous suivrez Yvonne dans le voyage qu'elle fera après la célébration de son mariage.
Et la marquise avait laissé l'ouvrière à ses réflexions.
Marianne, rendue à elle-même, se trouva heureuse de la circonstance qui l'éloignerait pendant quelque temps de Charles Douvel.
Le mariage d'Yvonne avec Gaston de Saulny allait s'accomplir sous peu.
Le gouverneur voulait que cet heureux événement fût pour le personnel et les détenus du pénitencier l'occasion d'un jour de fête. Aussi décida-t-il que tous ces malheureux auraient leur part des réjouissances qui se préparaient.
Le commandant du pénitencier fut donc avisé, quelques jours à l'avance, que le jour du mariage, les travaux cesseraient, que les condamnés assisteraient le matin à une grande messe qui se célébrerait dans la chapelle du pénitencier, qu'une distribution de vivres frais et de tafia serait faite, que les détenus seraient autorisés à se réunir pour prendre leur repas en commun sans que les surveillants puissent les empêcher de chanter et de danser. Pendant toute la journée, les prisonnières pourraient même se promener par groupe dans les rues de la Nouvelle-Orléans sous la conduite des surveillants. Le soir, un grand dîner leur serait offert dans la cour principale du pénitencier, illuminé pour la circonstance. Et après le repas, aurait lieu un grand bal qui se prolongerait jusqu'à minuit.
Les matelots du stationnaire, qui avaient si rarement l'occasion de se divertir dans cette ville où l'on ne s'occupait encore que des constructions nécessitées par une augmentation rapide de la population, furent également prévenus qu'ils auraient l'autorisation de descendre à terre et de prendre leur part des réjouissances dans le vaste enclos du pénitencier. C'était pour ces marins une occasion inespérée de danser avec les exilés, dont quelques-unes, parmi celles qui faisaient partie du dernier convoi, étaient fort jolies et n'avaient pas encore été aperçues depuis leur arrivée. Il circulait même certaines rumeurs, parmi les officiers de la garnison et les surveillants du pénitencier, au sujet d'une surprise que le gouverneur ménageait aux détenus. Il s'agissait de remettre en vigueur une tradition que le prédécesseur du marquis avait laissée de côté, et cela au grand regret des prisonniers. Lorsque les Français prirent possession de cette partie du territoire américain, comprenant le Mississippi et la Louisiane, il n'y avait sur l'emplacement où s'était depuis fondée l'importante cité de la Nouvelle-Orléans que quelques cabanes, à peine suffisantes pour une population qui dépassait déjà un millier d'âmes. Cette population se composait en partie d'hommes venus du Mexique et de quelques Espagnols de la Floride. Pour tous ces hommes qui s'occupaient à défricher le sol couvert de roseaux sur lequel la cité allait s'étendre rapidement, il fallait songer à l'accouplement. Or, chaque fois qu'un convoi de femmes arrivait de France, le gouverneur ordonnait que des mariages eussent lieu entre les colons et les exilés. Naturellement, les plus jolies, parmi ces créatures, étaient réservées pour les hommes déjà en vue de la petite colonie et pour les protégés du gouverneur. Les moins jolies, de ce lot de condamnés au mariage forcé, étaient abandonnées au menu frottin de la population turbulente de la ville. Le gouverneur ne laissait pas dans ses unions le choix aux fiancés. On tirait les femmes au sort. Bon gré, mal gré, il fallait accepter celle que le hasard vous accordait, alors qu'une autre vous eût infiniment mieux convenu. Mais jamais le convoi de femmes n'était assez nombreux pour contenter la population masculine. Et ceux qui n'avaient pas eu la bonne fortune de trouver une épouse attendaient avec impatience l'arrivée d'un bâtiment annoncé comme ayant à bord une cargaison de filles. Faute de mieux, les colons se rejetaient sur la cargaison de chair humaine qu'apportaient les négriers venant de la côte d'Afrique. On y choisissait les jeunes négresses pour en faire des épouses qu'on menait ensuite à coups de fouet. C'est par le fait de ces accouplements que la population dite de couleur commença à prendre naissance dans la ville de la Nouvelle-Orléans et devait plus tard devenir l'élément le plus actif de la colonisation. Les mariages autorisés, disons même imposés par le gouverneur, s'accomplissaient sans autre formalité que la bénédiction nuptiale donnée aux couples réunis par l'aumônier du fort. C'était bâclé en un rien de temps,
et les nouveaux mariés s'en allaient, bras dessus, bras dessous, dans leur cabane où ils étaient libres de célébrer leur union comme ils l'entendaient. Généralement, ces épousailles devenaient l'occasion de danses et de scènes d'ivresse qui se prolongeaient pendant toute la journée. Le lendemain, il fallait se remettre au travail, et les épouses de la veille n'avaient pas le loisir de savourer longtemps la lune de miel. Mais au bout de quelques années, la population des célibataires avait tellement augmenté que la chasse aux femmes devint une véritable nécessité, et les plus hardis se risquaient même dans les prairies et les forêts vierges pour y attaquer les peuplades indiennes et enlever les femmes et les jeunes filles des peaux-rouges. Au moment où nous en sommes arrivés de la colonisation, le gouverneur avait voulu recourir aux traditions abandonnées par ses prédécesseurs. Le dernier convoi dont Marianne faisait partie était composé de filles qui n'avaient pas été sans exciter la convoitise de célibataires peu scrupuleux sur le choix d'une épouse. Tout leur était bon, voleuses aussi bien que filles de débauche. Commandant du fort avait fait part à son chef hiérarchique de la nécessité d'opérer une fournée d'union. Le marquis consentit et voulut faire coïncider la célébration générale des bénédictions nuptiales avec les fêtes du mariage d'Yvonne. La nouvelle, bien qu'on eût voulu garder le secret jusqu'au dernier moment, se répandit et Charles Douvel fut un des premiers à en avoir connaissance. Naturellement, le projet ébruité avait mis tout le monde en émoi dans le pénitencier, aussi bien que dans les dépendances de l'habitation. Chacun espérait obtenir pour femme la jolie détenue qu'il avait remarquée. D'aucuns essayèrent même de faire agir des influences auprès du gouverneur. Parmi ces célibataires pressés de mener enfin la vie conjugale, se trouvait entre autres un sergent de la garnison du fort. Ce militaire avait fait partie du dernier contingent envoyé de France pour combler les vides de la petite garnison de la Nouvelle-Orléans. Le sergent Rabusson était à bord du Glorieux avec le dernier convoi de femmes. Sur le navire, il avait remarqué Marianne et recherchait l'occasion de se rencontrer avec elle sur le pont. Mais on sait que la captive recommandait tout particulièrement au capitaine évitait autant que possible de causer soit avec les matelots, soit avec les passagers. Aussi, le sergent Rabusson en avait-il été pour ses frais de galanterie. Marianne l'avait continuellement évité lorsqu'elle le voyait se diriger vers la partie du navire où elle se trouvait. Une fois débarquée, la détenue placée, ainsi qu'on l'a vu, d'abord à l'infirmerie, puis presque aussitôt après dans la maison du gouverneur, s'était trouvée à l'abri de rencontres avec le sergent énamouré. Mais lorsque celui-ci eut appris que l'on allait procéder à des mariages dans le pénitencier, toute sa flamme pour la jolie prisonnière se ralluma, et il se mit en quête de protection, tant auprès de la jeune couturière qu'auprès du gouverneur qui était le maître absolu. Rabusson s'adressa tout d'abord à l'officier qui commandait la compagnie dont il faisait partie. Le capitaine sourit et promit d'en parler au commandant du fort. Ce dernier officier était lui-même circonvenu de toutes parts par les demandeurs de main, lesquels avaient déjà fixé leur choix et espéraient le faire ratifier par le sort. Le commandant promit de s'intéresser au sous-officier qui faisait son service militaire à l'entière satisfaction de ses chefs. Il communiqua au gouverneur la supplique de Rabusson, ce qui fit tout d'abord sourire le marquis, qui dit plaisamment à son subordonné. « Votre protégé, mon cher commandant, se soucie-t-il beaucoup, en se mariant, d'être aimé de l'épouse qu'il prendra ?»« Franchement, monsieur le marquis, ricana le commandant, je ne me suis pas informé de ce détail. Mais, reprit-il, pourquoi votre seigneurie m'adresse-t-elle cette question ? » Charles Douvel assistait à la conversation. Au moment de répondre, le gouverneur se tournant vers son secrétaire. « Ayez donc l'obligeance, lui dit-il, d'aller chercher le dossier de mademoiselle Henriette Gérard. » L'officier n'avait pas tardé une seconde à obéir. Grâce à ce hasard, il allait enfin savoir pour quelle faute on avait puni si sévèrement sa protégée. Ce que la jeune femme lui avait caché jusque-là, il allait l'apprendre. Il se rendit donc avec précipitation dans le cabinet du gouverneur, tandis que le marquis, passant familièrement son bras sous celui du commandant, l'entraînait vers la terrasse sur laquelle les deux officiers se mirent à se promener, tout en causant de la détenue et du sergent Rabusson. Lorsque, quelques minutes plus tard, Charles Douvel revint auprès des deux officiers supérieurs, ceux-ci causaient en échangeant quelques innocentes plaisanteries dont le sergent Rabusson faisait les frais. Un changement complet s'était opéré dans son esprit depuis qu'il avait pris connaissance de la lettre concernant la détenue. Monsieur de Lignières, recommandant la nommée Henriette Gérard à la bienveillance du gouverneur de la Louisiane, avait dû reconnaître que celle qu'on expulsait de France n'était pas une de ces filles perdues qui composent d'ordinaire le convoi des exilés sur la terre américaine. Elle n'était en réalité coupable que d'avoir inspiré un violent amour au neveu du lieutenant de police. Amour assez insensé pour que le chevalier de Vaudrey, foulant aux pieds tous ses devoirs et le souvenir de ses nobles aïeux, ait voulu donner son nom à cette fille du peuple. Le lieutenant, stupéfait d'abord, avait lu et relu la lettre écrite de la main même du lieutenant de police. Alors, il sentit renaître en lui toute l'agitation de son âme, toute cette violence de sentiment contre laquelle il avait si énergiquement et si vainement combattu. En se retrouvant en présence du gouverneur, Charles Douvel avait l'air radieux. Un sourire illuminait son visage lorsqu'il tendit la lettre au marquis. Puis, tandis que le gouverneur communiquait la missive au commandant, le lieutenant se tint à l'écart. Que lui importait à présent ce que diraient les deux personnages? Ne savait-il pas tout ce qu'il avait tant et depuis si longtemps désiré apprendre? Désormais, il avait sa ligne de conduite toute tracée. Il lui tardait de se retrouver en présence de Marianne, car cette fois, il pourrait lui ouvrir son cœur, sans restriction, sans passer par une capitulation de conscience indigne du gentilhomme comme de l'officier. Ne se savait-il pas aimé? N'avait-il pas surpris dans les yeux de la captive cette expression qui l'avait troublée, mais qu'il s'était efforcé d'oublier? Parce qu'alors, il ignorait la vérité sur le compte de sa protégée. Il la croyait indigne d'affection et d'estime. Mais à cette heure, cette flamme qu'il avait surprise dans le regard de l'ouvrière était pour lui une joie immense. Il se savait aimé et il pourrait désormais répondre à cet amour. Ah, comme il lui tardait maintenant de se rencontrer avec elle, comme il se proposait de laisser librement éclater sa tendresse. En vain essaya-t-il de se reposer ce soir-là. Le sommeil fuyait ses yeux devant lesquels apparaissait sans cesse l'image de la femme adorée. Après une lutte inutile pour vaincre l'insomnie, Charles Douvel quitta sa chambre, descendit au jardin. Il se mit à marcher silencieusement, les yeux fixés sur la fenêtre de sa voisine, laquelle s'encadrait entre les branches des grenadiers en fleurs. Cette croisée était ouverte, et de l'endroit où il se trouvait, l'officier put voir l'ouvrière veiller. Elle non plus ne s'était pas couchée. La tête appuyée sur l'oreiller, elle paraissait en proie à une douleur muette. Qui sait, elle pleurait peut-être, sachant que l'amour qu'elle avait au cœur devait demeurer ignoré de celui qui en était l'objet. Charles Douvel eut un élan pour se précipiter hors du jardin, courir, frapper à la porte de cette chambre où veillait son ami, supplier qu'elle lui ouvrît et révéler sa passion, vaincre ses scrupules et obtenir la promesse qu'il espérait. Mais la raison vint l'empêcher de donner suite à cette idée. Après avoir attendu pour voir si la jeune femme ne sortirait pas de cet état d'immobilité, l'officier quitta le jardin par une porte du fond qui donnait sur des terrains vagues. Il s'ouvrit un passage au milieu d'un champ de plantes de Palma Christi qui s'étendait au loin, bordant le fossé qui entourait le pénitencier. De là, le terrain s'élevait en monticule, d'où l'on découvrait, d'un côté, le Mississippi, hâtant sa course pour aller se jeter dans le golfe du Mexique, de l'autre, les eaux bleuâtres du lac Pontchartrain. En arrivant à cet endroit, à cette heure matinale, Charles Douvel se sentit pris de cette vague émotion qu'on éprouve au spectacle de la nature qui s'éveille. Il demeurait les yeux fixés sur l'horizon que l'aurore diaprait maintenant au fur et à mesure que le soleil montait à l'horizon. Soudain, une détonation lointaine vint solliciter son attention. À ce premier coup de canon, d'autres succédèrent bientôt. La fumée montait, indiquant la position du navire. Charles Douvel ne douta pas que ce ne fût la corvette qui saluait les forces extérieures. Un frémissement parcourut tout son corps. Il se rappela qu'il avait annoncé à Marianne son intention de prendre passage à bord de la corvette qui devait, on se le rappelle, toucher à la Nouvelle-Orléans avant de faire voile pour la France. Dans quelques instants, se disait-il, la jeune femme apprendrait l'arrivée du navire. Il fallait donc lui éviter le chagrin qui ne pouvait manquer de l'assaillir, pensant que le bâtiment emporterait bientôt l'ami que, dans sa pensée, elle ne devait plus revoir. Charles Douvel put bientôt se convaincre qu'il ne s'était pas trompé. C'était bien la corvette attendue. Il la vit arriver lentement, prudemment au mouillage. Lorsqu'elle fut signalée, les forts rendirent le salut. Pendant près d'une heure, la canonnade fit rage dans le port. Un bâtiment de guerre anglais étant au mouillage, les saluts recommencèrent. C'est donc au bruit de formidables détonations d'artillerie que l'on s'éveilla à l'habitation. Le gouverneur et les officiers de la garnison, en grand uniforme, attendaient le débarquement de l'état-major de la corvette. Et chacun, à l'habitation, se disait que la célébration du mariage de Mademoiselle Yvonne aurait lieu très prochainement. On en parlait au pénitencier, pour le moins autant qu'à la résidence. Les captifs et les prisonniers, aussi bien que les matelots et les soldats, savaient que ce serait pour tous le signal des réjouissances promises par le gouverneur. Aussi, chacun vit avec plaisir aborder la grande chaloupe qui portait les officiers de la corvette. Ceux-ci furent reçus par le commandant du fort et les officiers de la garnison. Aussitôt, les présentations faites, tout le monde officiel se rendit dans le grand salon d'honneur où la marquise, Yvonne et Gaston de Saulny ne tardèrent pas à arriver. Les officiers devaient déjeuner à la résidence. Tout le monde fut mis en campagne pour se procurer à la ville les fruits et les pâtisseries pour le repas. Marianne avait accompagné les négresses chargées des achats à faire. Charles Douvel la vit se diriger tristement vers la ville. Il pensait que cet air si mélancolique était bien la preuve que la jeune femme avait passé la nuit à pleurer. Au surplus, il n'allait pas la laisser longtemps dans cet état de tristesse. Il se promettait, aussitôt qu'elle serait de retour, de provoquer l'entretien qu'il brûlait d'entamer. Ce qui le décidait à brusquer la situation, c'est qu'il savait que le sergent Rabusson était revenu à la charge auprès du gouverneur avec sa ridicule prétention à la main de Marianne. Le marquis, profitant de ce que l'état-major de la corvette visitait le fort, avait voulu avoir la réponse de la marquise qu'il avait chargée de sonder les intentions de sa couturière. La mère d'Yvonne l'avait arrêtée dès les premiers mots. « Je ne crois pas que notre jeune protégé, avait-elle dit, songe à donner dans son cœur un successeur à... au chevalier de... Chut, mon ami, il est inutile de prononcer le nom d'un gentilhomme qui a eu des torts bien graves envers cette jeune fille. Elle ne peut cependant conserver aucun espoir de ce côté. Ce qu'elle conserve, mon ami, c'est la fidélité de son cœur à celui qu'elle aime et qu'elle eut pendant toute sa vie consenti à aimer en silence. Et dans ce cas, ne serait-ce pas raviver son chagrin que de lui proposer... un mariage inespéré pour elle ? Ma foi, je ne crois pas. Et... parce que vous n'avez pas lu, comme moi, ce qui se passe dans la pensée de cet infortuné. Vous n'avez pas compris la raison de cette tristesse qui se manifeste depuis quelque temps déjà sur son visage. Observez-la. Marquise, voilà certes une occupation qui n'est pas absolument utile, fit en souriant le gouverneur. Et l'intérêt que je porte à la malheureuse fille ne saurait m'engager à une étude approfondie du cœur de cette jeune personne. « Si je vous parle ainsi, répliqua la marquise, c'est qu'Yvonne, qui elle aussi porte beaucoup d'intérêt à sa couturière, m'a prié d'intercéder auprès de vous pour lui permettre d'emmener avec elle notre protégé dans son voyage de noces. Cependant, je ne puis prendre sur moi de refuser la demande du sergent Rabusson sans avoir reçu au préalable la réponse de la personne seule intéressée. C'est juste. Aussi, dans un quart d'heure, vais-je vous apporter cette réponse. » Et la marquise se retira pour revenir quelques instants plus tard. « Eh bien, mon ami, la demande est faite, et vous pouvez répondre au protégé du commandant qu'Henriette... accepte ? Refuse de se marier ? Vraiment ? Ne l'avais-je pas prévu ?» Le lieutenant Douvel avait surpris en passant sur la terrasse quelques mots de cette conversation. Fort heureusement pour son amour-propre, les paroles prononcées par la marquise au sujet de la fidélité d'Henriette à son premier et unique amour n'étaient pas parvenues à ses oreilles. Du reste, ce qu'il savait de l'aventure de la détenue ne pouvait que l'enhardir dans son projet. Il regretta vivement de ne pouvoir, pendant cette interminable journée, s'isoler avec l'ouvrière. Il lui fallut attendre le soir, car le gouverneur avait voulu retenir les officiers du bord à dîner. Bon gré, mal gré, l'ancien commandant du Glorieux dut assister à ce repas et dissimuler les impressions de son âme. Pendant des heures, il fut contraint de faire taire son impatience. On était à la veille du mariage d'Yvonne, et ce dîner fut considéré comme le prologue des fêtes et réjouissances qui allaient se succéder en l'honneur des nouveaux époux. Au dessert, toutes les conversations partielles cessèrent comme par enchantement lorsque le capitaine du vaisseau se leva pour boire à la santé des fiancés qui allait prochainement recevoir la bénédiction nuptiale. Après ses premiers souhaits de bonheur, toute l'assistance se leva pour féliciter Mademoiselle Yvonne, qui, radieuse au bras de son fiancé, ouvrit la marche pour se rendre, suivie de tous les invités, sur la terrasse où l'on avait servi le café et les cigares. La conversation reprit pour se prolonger longtemps, et ce ne fut qu'assez tard que le commandant de la corvette donna le signal de la retraite. Depuis plus d'un quart d'heure, Charles Douvel se tenait à l'affût derrière la porte de sa chambre lorsque Marianne s'engagea dans la galerie de bois. Au moment où elle allait entrer chez elle, Charles s'avança à sa rencontre, s'efforçant de ne pas laisser percer l'émotion qu'il éprouvait. « Voulez-vous me permettre de causer quelques instants avec vous, mademoiselle Henriette ? » demanda-t-il. « C'est que je suis bien fatiguée, monsieur Charles, » répondit la jeune femme, qui avait compris l'effort que faisait son interlocuteur pour se contenir et redoutait quelques surprises. Mais le lieutenant, ouvrant brusquement la porte, s'introduisit dans la chambre. L'officier demeura quelques secondes avant de prendre la parole. Ses yeux s'appuyaient sur le visage étonné de la jeune femme, et il y avait dans les regards qu'il lui adressait une inexprimable expression de joie prête à faire explosion. En le voyant ainsi, Marianne avait pâli. Quelle surprise lui était donc ménagée ? Après les tourments qu'elle subissait depuis plusieurs jours, lui était-il réservé de passer encore par des épreuves douloureuses ? Son regard inquiet suppliait plutôt qu'il n'interrogeait. Enfin, comme s'il eût voulu laisser éclater sa confidence, de façon à impressionner l'imagination de l'ouvrière. « Ah, je sais qui vous êtes maintenant. Je connais le motif qui vous a fait exiler de France. » Marianne, ignorant ce qui s'était passé précédemment, se trompa sur le sens des paroles qu'on lui adressait. Elle supposa que le lieutenant avait découvert la substitution de personnes dont elle s'était rendue complice. Elle s'imagina que cet homme qui lui avait témoigné de la sympathie, sachant qu'elle était une misérable, venait aujourd'hui lui reprendre son amitié, sa protection. Troublée, elle demeurait immobile et muette. Charles Douvel ne prolongea pas cette situation. Il avait hâte d'arriver au but. S'animant, il s'écria plein d'enthousiasme. « Je sais que vous êtes la plus vertueuse, la plus honnête, la plus estimable des femmes, et que, victime de l'ambition et de l'orgueil, vous avez été sacrifiée. » Marianne ouvrait des yeux étonnés. Tout ce qu'elle entendait la jetait dans la plus profonde appréhension. « Je sais, poursuivit l'officier, que mon cœur ne m'avait pas trompé lorsqu'il me poussait vers vous. « Oh, ne rougissez pas, continua Douvel, ne rougissez plus de l'affection que vous éprouviez pour moi, puisqu'elle répondait à celle que je ressentais moi-même si profondément pour vous. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'enfermer au fond de mon cœur. Je puis, sans déroger, vous avouer mon amour, à vous, dont l'âme est mille fois plus noble que tous les titres de noblesse. Oui, Henriette, je vous aime. » La malheureuse femme à qui s'adressait cet aveu eut un tressaillement et son visage prit aussitôt une expression de souffrance indicible. « Je vous aime, reprit Charles Douvel, depuis le jour où je vous ai vue, héroïque, pendant la catastrophe du navire que je commandais. Depuis, l'amour que je ressentais pour vous a pris chaque jour des racines plus profondes dans mon cœur. Et je viens vous demander, chère Henriette, de m'accepter pour époux. » Marianne étouffa un cri. Les yeux effarés, le visage bouleversé, elle semblait en proie, non plus à la surprise que pouvaient provoquer chez elle les paroles qu'elle venait d'entendre, mais au plus effroyable désespoir. Il poursuivit en saisissant les mains de la jeune femme. « Je sais que vous avez aimé, mais je sais aussi que votre affection est demeurée pure, et qu'aujourd'hui, puisque votre cœur est devenu libre de cet amour, vous pouvez accepter de devenir la femme, la gentilhomme, moi, c'est impossible, » s'écria la malheureuse en cherchant à dégager sa main de l'étreinte du lieutenant. Mais lui, plus pressant, plus ardent que jamais, continuait de faire valoir ses droits à l'amour de la captive. « Croyez-le bien, Henriette, si je n'avais la certitude que vous êtes digne du nom que je veux vous donner, je ne persisterais pas dans un projet dont j'aurais à rougir plus tard. Tant que j'ai pu douter, ne me suis-je pas tenue à distance? N'ai-je pas compris que je n'avais pas le droit de m'abandonner à une mésalliance qui eût entaché un nom que je ne suis pas seule à porter? Mais je sais qu'en épousant cette Henriette Gérard qui subit un châtiment odieux, alors qu'on aurait dû la respecter comme elle avait su se respecter elle-même, je sais que je me fais honneur à moi-même, et je vous le dis encore, Henriette Gérard. Voulez-vous m'accepter pour mari? » Charles Douvel attendait fiévreux que la jeune femme voulût bien répondre. Mais Marianne était comme atterrée et sans voix. Affolée, elle se tordait les bras en proie à une émotion d'une violence extrême. Elle luttait contre la nécessité de dire toute la vérité, contre la honte de dévoiler à l'homme qu'elle aimait ce qu'elle était réellement. Cependant, Charles Douvel continuait à parler avec exaltation. Brûlant d'amour, il était tombé, suppliant à ses genoux. Marianne n'y tint plus. L'œil ardent, elle le regarda bien en face, et d'une voix vibrante, pleine de désespoir, elle prononça ces mots. « Je ne suis pas Henriette Gérard. » L'officier demeura interdit. Mais avant qu'il ne fût revenu de sa surprise, Marianne lui avait saisi la main et l'étreignait fiévreusement en répétant « Non, je ne suis pas Henriette Gérard. Je ne suis pas la femme que vous croyez et que je serai heureuse d'être, je vous le jure devant Dieu. » Et s'exaltant, « Celle qui se nomme Henriette Gérard est ainsi que vous l'avez dit, une pure et noble fille, qui a droit à tous les respects. Une infortunée, victime de la plus odieuse vengeance, elle que le grand seigneur qui la persécute eût dû admirer et vénérer comme une sainte. » En prononçant ces mots, elle parlait par saccades, luttant contre l'épuisement, mais résolue à tout dire. Le lieutenant la regardait avec une surprise mêlée d'épouvante. Tout ce qu'il avait entendu dire lui bourdonnait dans la tête, comme s'il eût écouté les propos d'une folle. Les paroles si affirmatives de la détenue le plongeaient dans une anxiété violente. « Je ne suis pas Henriette Gérard !» s'était écriée la jeune femme. « Si vous n'êtes pas Henriette Gérard, dit-il, qui donc êtes-vous » Alors, un changement subit se produisit sur le visage de Marianne. La rougeur lui monta au front, et ses yeux se voilèrent d'une expression de violente douleur. Elle éprouvait une honte irrésistible d'avoir à démasquer son identité tenue secrète jusque-là. Elle allait en effet perdre en un instant tout le prestige d'admiration et toute la tendresse que lui témoignait le lieutenant Douvel. Charles Douvel, impatient, renouvelait sa question. « Qui donc êtes-vous » reprit-il après quelques instants de silence. Marianne s'arma de courage. Élevant des regards assurés sur l'officier, elle prononça ces mots. « Je suis une malheureuse, dont le sort s'est trouvé lié, par le fait du hasard, au sort de cette sage et pure jeune fille qui se nomme Henriette Gérard. » Monsieur Douvel allait l'interrompre, mais la détenue était lancée dans la voie des aveux. Elle poursuivit courageusement la narration rapide de sa vie coupable, alors qu'accouplée au misérable fils de l'affrochard, elle était tombée dans l'ignominie. Elle dit sa vie honteuse depuis le jour où elle avait rencontré Jacques Frochard, jusqu'au moment où, affolée, désespérée, elle avait voulu se tuer en se précipitant dans la Seine. Elle dit son désespoir, ses larmes et son profond repentir depuis sa rencontre avec les deux orphelines. Elle dit enfin, sans en paraître fière, son généreux sacrifice au profit d'Henriette et la longue expiation qu'elle s'était imposée sur la terre d'exil. « Cette expiation, répondit tristement Douvel, rachètera, j'en suis certain, les fautes du passé dont vous vous accusez. Et moi, dont votre aveu vient de briser le cœur, je n'oublie pas, je n'oublierai jamais ni votre abnégation, ni votre courageuse conduite dans les circonstances redoutables que nous avons traversé ensemble sur mon pauvre navire. Et si, après le douloureux aveu que je viens d'entendre, il ne m'est plus permis de vous dire « Soyez ma femme », je puis toujours vous tendre la main et vous demander d'être encore mon ami. » Et l'énergique marin, en achevant ces mots, ne put retenir de larmes qui sillonnaient ses joues. « Votre ami, toujours, toujours, puisque vous le permettez, » répondit Marianne, essayant vainement de déguiser son trouble et la douleur de son âme.